Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition. Mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017, la justice restaurative est une pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction. Stéphane Simon, certifié, ainsi que Claude Durafour, visiteur de prison, interviennent dans le cadre de modules de sensibilisation à la justice restaurative avec nous dans cette édition. Puis, les affaires culturelles de la ville de Villefranche et son agglomération, Villefranche-Beaujolais-Saône, sont à l'initiative d'un projet de territoire participatif intergénérationnel accompagné de la compagnie de danse contemporaine lyonnaise Alette et Gaillan, ouvert à tous les publics et gratuit sur le thème danse et gastronomie. Avec nous Géraldine Riet, médiatrice culturelle pour la ville, et Bruno Miachon, directeur général de la compagnie Alette et Gaillan. Et pour conclure, le salon du livre La vague des livres en Beaujolais, les 4 et 5 avril prochains, à Villefranche. Avec nous Bertrand Lamure, président de l'association La vague des livres. Calade, le journal. Place en foyer, intervention chez les familles en difficulté, meilleur accompagnement des enfants placés handicapés. 30 départements bénéficieront en 2020 d'un soutien financier en faveur de la protection de l'enfance, a annoncé donc le 3 février le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Les départements sélectionnés devront conclure avec l'État d'ici juin 2020 un contrat avec des projets et des priorités en matière de prévention et de protection de l'enfance. 62 départements s'étaient portés candidats pour cette première vague de contractualisation, dotée d'une enveloppe de 80 millions d'euros. Une trentaine d'autres départements devraient bénéficier de la même démarche. Les premiers départements concernés, la Meuse au Val d'Oise, en passant par la Corse, la Guyane, la Réunion ou encore le Gard, ont été choisis par leurs projets innovants en matière de prévention, de détection ou de prise en charge des enfants maltraités. Ces contrats impliqueront un cofinancement par les départements à hauteur de 50% pour des projets avec des objectifs fixés et dont les premiers résultats seront évalués d'ici un an. Il s'agira par exemple d'investir davantage dans la protection maternelle et infantile par des visites à domicile, de soutenir l'accompagnement des enfants placés en situation de handicap ou d'implanter des villages d'enfants structurés, gérés par Action Enfance qui favorise l'accueil de fratries au sein de villages de plusieurs petits pavillons. Plus de 350 000 jeunes font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance en France, dont la moitié sont placés dans des foyers ou auprès de familles d'accueil. Confrontés à d'importantes difficultés, le secteur de l'aide sociale à l'enfance, placé sous la compétence des départements, a fait récemment l'objet de plusieurs documentaires télévisés révélant des prises en charge défaillantes, notamment dans des foyers. Article du journal Le Monde et AFP. Mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017, la justice restaurative est une pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction. Stéphane Simon, certifié, ainsi que Claude Durafour, visiteur de prison, interviennent dans le cadre de modules de sensibilisation à la justice restaurative avec nous dans cette édition.
Eh bien, on veut professionnaliser la mise en place de cercles de parole qui permettent aux victimes et aux auteurs et à leurs proches, s'ils le souhaitent, volontairement et librement, se rencontrer pour sortir du statut de victime et du statut d'auteur, pour reprendre sa vie en main et aller plus loin, chacun avec sa vie, mais que le délit ou le crime n'impacte pas tout le reste de mon existence. Le Canada, oui, met ça en place depuis plus de 30 ans. La Nouvelle-Zélande l'a établi également dans sa législation. Et nous, en France, depuis le 15 août 2014, une loi a été votée. C'est l'article 10 du Code de procédure pénale pour permettre à la France de s'engager aussi dans cette complémentarité à la justice pénale. Et la justice restaurative veut restaurer les liens et en premier lieu les personnes. Alors c'est déjà mis en place en France, dans plusieurs départements, soit dans le monde judiciaire et pénitentiaire, soit dans le monde sociétal, quand les affaires ne sont pas judiciarisées ou après la détention, on peut envisager de faire bénéficier des auteurs et des victimes qui le souhaitent des rencontres restauratives. Il y a plusieurs départements, ça fonctionne bien, je pense à Montpellier. Régulièrement, il y a des rencontres auteurs-victimes, condamnés-victimes.
Alors, on va peut-être poser une question également à l'Association nationale des visiteurs de prison, par le biais effectivement de Stéphane Simon.
On a décidé de mettre en place ces modules de sensibilisation à la justice restaurative, parce que la justice restaurative peut apporter des outils supplémentaires pour promouvoir des mesures de réparation alternatives qu'il propose dans ce livret.
Quand on est dans la justice restaurative et notamment lorsqu'on le demande réparation, de quoi effectivement est fait tout ça, comment on devient effectivement utile par rapport à cette méthode, si
j'imagine. Eh bien, soit les services pénitentiaires d'insertion de probation discernent que telle ou telle personne condamnée, le SPIP, pourrait peut-être entrer dans un processus restauratif. Il y a également les associations d'aide aux victimes qui font ce travail auprès des victimes, ou les proches des victimes ou les proches des auteurs, ou des personnes comme nous dans l'association Justice Restaurative, où on permet de faire connaître cette possibilité et aux auteurs et aux victimes pour prendre en compte celles-ci dans leur traumatisme, responsabiliser les auteurs et impliquer les citoyens.
Pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction, la justice restaurative consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d'infractions, qu'il s'agisse des parties concernées par la même affaire ou non. Les mesures prises selon des modalités diverses visent toutes à rétablir le lien social et à prévenir au mieux la récidive. Puis, les affaires culturelles de la ville de Villefranche et son agglomération, Villefranche-Beaujolais-Saône, sont à l'initiative d'un projet de territoire participatif intergénérationnel, accompagné de la compagnie de danse contemporaine lyonnaise Alette et Gaillan, ouvert à tous les publics et gratuit, sur le thème « Danse et gastronomie ». Avec nous Géraldine Driet, médiatrice culturelle pour la ville, et Bruno Miachon, directeur général de la compagnie Alette et Gaillan.
Géraldine Driet, coordinatrice culturelle à la ville de Villefranche et à l'agglomération pour le service culturel. Tout à fait, en fait, on a essayé cette année de faire un projet qui soit et de qualité et festif avec la compagnie Allée et Gaillan et qui est une résidence en fait à l'année dédiée à la population et qui permettra d'apprendre à travers une série de 4 bals participatifs dans l'ensemble de l'agglomération, Vaux, Saint-Julien, Salar-Buissana, 4 bals participatifs pour apprendre en effet des enchaînements ouverts à la population. L'objectif en fait relève de la rencontre avec Allée et Gaillan, du partage, mais aussi du projet culturel de territoire où l'éducation artistique et culturelle est au cœur du projet, mais aussi le maillage territorial qui est au cœur du projet, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'ensemble de la population sur tous les temps de la vie. Donc c'est vraiment un projet qui est intergénérationnel avec par exemple des groupes de hip-hop qui vont venir, mais également des groupements de troisième âge aussi qui seront là.
Et puis c'est tout public et surtout gratuit.
Tout à fait, tout public, de 6 ans jusqu'à 99 ans, voire plus, tout le monde est invité librement à venir partager et des moments de danse, mais aussi des moments de repas, puisqu'en effet, des moments festifs sont aussi la danse et le culinaire. Comme le premier bal est le 15 février à Vaux, en fait, on aimerait pouvoir mettre ça en place très rapidement.
Donc, je suis Bruno Miachon, directeur de la compagnie Allée et Gaillan. Alors nous, on a une pratique de la danse qui est très vitale, très dynamique, qui s'appuie sur des danseurs très techniques, beaucoup d'énergie. Michel Allée et Gaillan a toujours construit les danses avec cette dynamique-là. Il est lui-même empreint de cette vitalité. Et c'est vrai que le projet tourne autour de la pièce Oura, qui a été réalisée pour le 40e anniversaire de la compagnie. Et quand on fait une pièce, un spectacle pour un anniversaire, c'est en général festif. Le projet, c'est la fête, la convivialité, le partage.
Alors, vous êtes des danseurs de danse contemporain et nous allons vers des danses un peu traditionnelles. On renoue avec le côté bal populaire. Alors, comment on arrive à lier les deux ?
On revisite. Oui, des danses traditionnelles, mais on n'aurait pas osé y toucher si on n'avait pas eu de l'information scientifique à ce sujet-là. Et puis, ce qui est la définition même de la tradition, c'est la transmission orale. Et nous, danseurs contemporains, on est dans la transmission orale, on est dans un espace traditionnel. En fait, il faut séparer ce qui est de la civilisation paysanne, qui en France s'est arrêtée aux alentours de 1918, qui se prenait appui sur des traditions de fonctionnement, et notre civilisation aujourd'hui, qui est plus une civilisation du loisir, du spectacle, mais qui conserve une pratique de la tradition. L'enseignement, c'est de la tradition. La transmission culinaire, c'est de la tradition. Donc on est encore dans ces espaces-là. C'est d'autant plus fort que ce qui faisait vraisemblablement les danses dites traditionnelles, les danses paysannes, c'était les danseurs. C'est-à-dire que c'était le talent, le génie, le plaisir à danser des danseurs. Et aujourd'hui, ce qui fait la danse contemporaine, pour nous, c'est le talent, le génie, le travail des danseurs qui font la danse. Donc le lien se fait par là.
Entrée dans la danse, le nouveau rendez-vous proposé par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Villefranche et son agglomération VBS. Un projet qui s'accompagne de la compagnie de danse contemporaine lyonnaise Alette et Gaillan dans une proposition de renouer avec les bals populaires dans les communes du Beaujolais, les communes de Vaux-en-Beaujolais, Saint-Julien, Salars-Buissonnas ou encore Blacy et Saint-Étienne-des-Ouillères, mais aussi, un peu plus tard dans la saison, le Parc Vermorel à Villefranche sont partenaires de l'événement. Un prétexte à la rencontre pour partager ensemble. Et pour conclure, le Salon du Livre, la vague des livres en Beaujolais, les 4 et 5 avril prochains, à Villefranche. Avec nous Bertrand Lamure, président de l'association La Vague des Livres.
Et c'est faire la part belle aux auteurs, bien évidemment, mais aussi l'ouvrir vers d'autres univers, l'univers des artistes, l'univers du slam, et puis aussi l'ouvrir dans d'autres lieux. D'où ces partenariats avec le hangar 717, le quai 472 et même dans des communes autres que Villefranche.
Alors, quelques mots effectivement, mais très rapidement parce qu'ils sont nombreux, des auteurs.
Donc effectivement, en dehors de quelques auteurs invités, donc la marraine, je suis très fier que Jeanne Benhamer soit la marraine. Et après, effectivement, on a beaucoup d'auteurs que l'on invite et entre guillemets que l'on choisit. Et là, effectivement, il y a un tri toujours assez dramatique à faire, puisque il faut choisir, parce qu'elle n'a pas la place pour tous. Mais après, comme c'est toujours d'accueillir des écrivains, le choix est toujours compliqué. De Michel Bernard, également donc de Paola Pigani, de Jocelyne Desverchères, de Florent Oiseau. Donc auteur jeunesse avec Élise Fontenaille, avec Didier Corny qui est un très grand auteur jeunesse et qui travaille justement beaucoup autour du papier également, avec des montages très intéressants. Et puis auteur BD quand même, parce que l'illustration avec principalement quand même des gens que l'on connaît comme Jean Dittard ou Samuel Figuière. Et puis des gens qui sont des artistes, à commencer par Fabienne Germain et Christophe Renoux. Et puis des personnes qui viennent du monde de la carterie ou du papier.
Alors, de nouveaux lieux, vous l'avez dit, c'est assez intéressant. Celui, effectivement, de nouveaux partenaires, finalement, il me semble.
Qui est 472, qui est un lieu avec Musique Adam, qui est un lieu très sympathique, où il se passe plein de choses. Et donc, ravi de pouvoir faire un concert dans ce lieu-là.
Le hangar 717.
Le hangar 717, où on avait fait une sorte de présentation déjà du salon en septembre et qui va faire donc une exposition sur le papier.
Et puis, on se balade en campagne.
Ouais, parce que ça, je trouve que c'est hyper important que ça résonne aussi un petit peu dans d'autres lieux. Donc, il y a ce très beau lieu qui est la Villa Hispanica, qui est un nouveau lieu de culture. Et donc son propriétaire était désireux de faire un lien. Et donc il y aura un auteur le vendredi soir. Et puis également avec une petite commune, très chère à mon cœur, qui est Saint-Cyr-le-Chatou, où là, du coup, l'envie de faire une présence avec un week-end autour du papier et une rencontre auteur. Quoi.
Et une page blanche pour terminer, avec des artistes peu communs d'installations hybrides.
Oui, avec le collectif Ligre, mais il y aura également Mohamed El Amraoui, qui sera plutôt en mode autour du slam et autres. Et donc, le collectif Hybride avec un concert de papier.
Le 13e Salon du Livre, les 4 et 5 avril prochains, la vague des livres en Beaujolais. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.